Bon, bonjour à tous. On commence donc le premier cours, ou le premier vrai cours, car on a déjà eu la leçon inaugurale jeudi, mais c'était un autre type d'exercice. Tandis qu'aujourd'hui, je compte donc commencer cette série qui a été annoncée portant sur le XVIIe siècle. Donc, le titre que j'avais choisi, c'était « Penser le XVIIe siècle, une histoire imparfaite », bien sûr en pensant à l'idée de l'histoire parfaite qui avait été soutenue au XVIe siècle. Comme c'est un exercice un peu... je me lance un peu dans l'inconnu, je vous saurais que si, après les cours, ou même par email, à la suite des cours, vous pouvez me donner vos réactions, et ça m'aiderait aussi à... pour ainsi dire, pour rectifier le tir, car je suis aussi, comme vous voyez, débutant dans l'affaire. Alors, le XVIIe siècle, pour les pratiquants de l'histoire globale, l'histoire mondiale, pas exactement la même chose, est un siècle qui reste difficile, même très difficile à caractériser. Ce n'est pas le cas pour les histoires nationales, parfois c'est extrêmement... simple de caractériser le XVIIe siècle. On sait que c'est, pour certains, le grand siècle. Pour les historiens des Pays-Bas, par exemple, c'est ce qu'on appelle le Gouden Eeuw, le siècle d'or. Et si on pense à l'Extrême-Orient, pour les historiens du Japon, le XVIIe siècle, c'est la fin de la guerre civile de l'époque de Sengoku. Et c'est le moment de l'établissement d'un système politique relativement stable, même si assez inflexible, qui est le système donc, politique des Tokugawa, qui va solder aussi, avec l'expulsion des Portugais, l'établissement avec, de ce système assez étrange dans l'île de Déchima, où les Néerlandais sont les seuls Européens à avoir un contact continu avec le Japon à partir de 1640. Donc, vous voyez qu'on est dans des cadres assez faciles à définir si on était historien du Japon ou historien des Pays-Bas. Mais pour ce qui est l'histoire à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, ça reste un peu difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est en quelque sorte pris en sandwich entre deux siècles qui sont beaucoup plus faciles à caractériser. Donc, le XVIe siècle, qui est le siècle de l'établissement de l'Empire espagnol aux Amériques, donc, qui commence tout d'abord dans les Caraïbes, qui procède avec la conquête du Mexique et qui continue dans l'Amérique du Sud avec les incursions espagnoles dans le Pérou et dans le Sud. On a aussi, à ce moment-là, l'expansion portugaise, la création de l'Empire portugais, en Asie surtout. On a, du côté du monde musulman, le deuxième moment de l'expansion de l'Empire ottoman, c'est-à-dire on a ce premier moment autour de la première moitié du XVe siècle, mais là, surtout dans les règnes du sultan Selim, dans les années 1510 et les années 1510, jusqu'à la fin des années 1510, on a cette expansion, la conquête de l'Égypte, la conquête du Hijaz, et l'établissement donc d'un empire ottoman qui va de l'Atlantique jusqu'à Bagdad, jusqu'à Basra d'ailleurs. En Inde, on a la création, toujours au XVIe siècle, de l'empire moghol qui va rester assez stable pendant à peu près deux siècles et un peu plus. Donc le XVIe siècle est un siècle, pour ainsi dire, un siècle d'empire. De la création des grands empires. Et ça a été caractérisé un peu comme ça. Par exemple, si vous prenez les deux des historiens ou des intellectuels qui ont essayé d'écrire autour de cette question, si vous prenez d'un côté Francis Bacon, dans son célèbre essai sur les empires et sur l'équilibre entre les empires, si vous prenez Walter Raleigh, que dans les dernières années de sa vie, quand il était dans la tour de Londres, il a commencé une History of the World. Et alors, au début de son histoire du monde, Raleigh nous dit qu'en effet, le monde tel qu'on le connaît, c'est l'équilibre entre les Habsbourg et les Ottomans. Donc, le monde est tenu par cet axe entre les Ottomans qui sont à la tête du monde musulman et les Habsbourg, qui malgré tout, tout en étant britanniques, tout en étant anglais, et tout en étant très violemment opposés à l'Empire espagnol, néanmoins, elles reconnaissaient que c'était les Habsbourg contre les Ottomans pour définir une espèce d'axe pour l'histoire mondiale. Alors, si on passe au XVIIIe siècle, c'est aussi relativement facile à caractériser à l'échelle globale. Pour certains, c'est l'âge des révolutions, surtout les deux révolutions aux États-Unis, les naissantes États-Unis. Et alors, de notre côté, il y a bien sûr la Révolution française, donc c'est l'âge des révolutions tel que ça a été caractérisé même très récemment par des historiens aussi célèbres qu'Eric Hobsbawm, dont on va parler un peu plus dans l'heure à venir. Mais c'est aussi le moment, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle aussi de la seconde expansion européenne. C'est le moment donc quand les Anglais ayant perdu l'Amérique, sauf Canada, vont se relancer en Asie et vont créer donc cet empire qui va devenir ce qu'on appelait, et c'est la célèbre phrase de Vincent Harlow, « the second British Empire », ce deuxième moment de l'Empire britannique qui sera plus ou moins le contexte stable pour la plupart du 19e et le début du 20e siècle. Alors, par rapport à ça, le 17e reste pour les historiens qui veulent traiter l'histoire à l'échelle globale beaucoup plus difficile à saisir. Ça reste donc une question, par exemple, de plusieurs histoires ou plusieurs caractérisations possibles en fonction de l'optique nationale. Donc, si vous voulez, le XVIIe siècle, ou l'histoire globale du XVIIe siècle, écrit de Madrid, a une saveur tout à fait différente par rapport au XVIIe siècle, écrit à partir d'Amsterdam. Bien sûr. Et c'est un peu cette question que je vais traiter en reprenant un certain nombre de débats. Et comme je voulais commencer un peu en douceur, j'ai décidé aujourd'hui de prendre une approche un peu historiographique en revenant sur les derniers 50 ans plus ou moins de l'historiographie pour repenser toute une série de débats autour du problème des crises. Des crises au pluriel, mais aussi une crise en particulier qui sera, dont il sera question aujourd'hui. Alors, on sait qu'au XVIIe siècle, on parle beaucoup de révolution. On parle aussi de troubles, on parle de déclin. Et finalement, il y a ce quatrième mot ici qui est le mot « crise ». Ces mots sont utilisés avec une fréquence assez variable et dans des langues assez différentes. Par exemple, si vous prenez le mot « révolution », dans le monde d'expression plus ou moins persane, il y a un mot qui est utilisé précisément pour « révolution » à l'époque, qui est le mot « inqalab ». C'est un mot qui, comme révolution, aujourd'hui, par exemple, fait partie du vocabulaire des partis communistes. Par exemple, si vous êtes dans une manifestation du Parti communiste à New Delhi, une des choses qu'on va scander, par exemple, c'est « Inqalab Zindabad »,« Vive la révolution ». Mais alors, au XVIIe siècle, quand on utilisait ce mot « révolution », vous voyez ici, trois exemples, du XVIIe jusqu'au XVIIIe, donc l'idée de révolution ici est tout autre. C'est d'ailleurs un peu plus fidèle à l'idée même étymologiquement, comme ceux qui ont utilisé le mot « inqalab », par exemple dans l'Empire Safavide ou dans l'Empire Moghol, restaient eux aussi fidèles. C'est-à-dire qu'il y a une notion de cyclicité. C'est-à-dire, si vous prenez le premier de ces textes-là, à gauche, ça c'est le texte, le récit de voyage assez célèbre de François Bernier. Donc François Bernier, médecin formé à Montpellier, disciple de Gassendi, et qui va se rendre en Inde dans les années 1650, et ensuite qui va écrire un récit de voyage sous forme de lettres par exemple adressées entre autres à Colbert, où il va décrire ce qui, pour lui, est la dernière révolution des États du Grand Mongol. Mais c'est quoi cette révolution? Cette révolution, pour lui, c'est en effet une espèce de moment quand les choses tournent politiquement. Donc tout d'abord, révolution ici, c'est un mouvement politique et un mouvement, dans ce cadre, dynastique. Ce n'est pas un changement de dynastie, c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de la même dynastie. Et en effet, ce qu'il décrit ici comme une révolution, c'est la guerre entre les quatre fils du roi moghol Shah Jahan, qui s'est produit dans les années 1650. Et c'était un moment un peu inattendu pour une raison assez particulière, c'est-à-dire, normalement, plus ou moins, on attendait la mort du père avant de commencer la bataille. Tandis qu'ici, le père étant vivant, les quatre fils ont commencé à s'entretuer. Et il y a eu une série de batailles. Et le fils aîné d'Arashuko, qui était plus ou moins l'héritier présomptif, finalement a été écarté, tué, exécuté, et on lui a coupé la tête. C'est un des fils cadets, Aurangzeb, qui a finalement réussi à prendre le trône. Et Bernier va donc décrire ça plus ou moins sous le ton d'une tragédie, car il pense que ce n'est pas Aurangzeb qui a le plus de mérite parmi les fils. Et ça va d'ailleurs devenir donner le début de toute une série de développements, même de développements littéraires. Par exemple, l'écrivain John Dryden, en Angleterre, va faire une pièce de théâtre qui s'appelle précisément Aurangzeb, qui est une tragédie, sur reprenant un peu les thèmes de Christopher Marlowe autour de Tamerlan, mais en donnant ça toute une autre tournure, mais on voit en fait que c'est même textuellement basé sur le récit de Bernier. Mais voilà donc ce qui est une révolution pour Bernier, c'est quelque chose qui se passe, une succession illégitime, en quelque sorte c'est déjà une révolution pour lui. Parce que si c'était juste une succession entre Shah Jahan et son fils présomptif, il ne l'aurait pas caractérisé comme révolution. Donc, de la même façon, si vous commencez à regarder les livres du XVIIe, du XVIIIe siècle, vous pouvez, je vous ai donné trois exemples. Alors, le troisième, sur la dernière révolution de Perse, c'est un peu différent parce que ça, dans ce cas précis, il s'agit d'un changement de dynastie. C'est la chute des Safavides dans les années 1720 qui est en train d'être décrit dans ce livre. Mais dans d'autres cas, j'ai aussi des exemples sur l'histoire suédoise, sur l'histoire ottomane, par exemple l'assassinat d'un des empereurs dans les années 1720. Tout cela, c'est normalement traité comme révolution. Alors, de révolution, c'est un peu difficile d'aller jusqu'à l'idée de crise. Et alors, surtout parce qu'il y a eu des doutes qui ont été émis sur le problème de savoir si le mot crise est utilisé souvent ou non au XVIIe siècle. Je vais revenir sur cette question parce que, heureusement pour nous, tous ces mots ont été traités d'une façon assez convaincante, avec, il y a peut-être quelques petites critiques à faire, par l'historien des idées allemand Reinhard Koselleck, dans ses exercices de ce qu'il appelle Begriffsgeschichte, où il prend donc ces mots-clés et il fait une analyse pour démontrer comment, même si le mot reste stable, les usages changent, même radicalement, et donc qu'il y a tout un exercice à faire de suivre l'évolution entre, disons, mot et contexte, le rapport entre mot et contexte. Et il s'avère que Koselleck, dans ses exercices, a traité à la fois révolution et crise. Donc, je vais revenir sur ce qu'il dit sur la question de crise par la suite. Alors, pour la question de crise, par contre, il y a un moment qui est normalement regardé comme le début de l'idée qu'il y avait une crise au XVIIe siècle, une crise qui caractérisait le XVIIe siècle global, je veux dire. On a quelques débats sur le vrai moment, le vrai début de cette idée de crise. Selon certains, on peut même trouver des éléments chez Voltaire. dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, où il commente le fait qu'au XVIIe siècle, quelque chose s'est passé dans différents endroits assez éloignés dans le monde et qu'il y avait peut-être un mouvement général, mais il n'a pas développé cette idée. Normalement, le début de cette idée de crise est tracé à ces débats des années 50, mais en réalité, ça remonte un peu plus loin. À la fin des années 1930, un historien américain de Harvard, qui s'appelle Roger Merriman, a écrit un petit livre qui s'appelle « Six Contemporaneous Revolutions ». Pour vous dire deux, trois choses sur cet historien, donc Roger Merriman, qui avait travaillé sur Thomas Cromwell au XVIe siècle. Par la suite, il a aussi fait des traductions de Lopez de Gomara en anglais. Et finalement, vers la fin de sa vie, il a écrit une biographie, comme il s'avère, de Soliman, Kanuni Soliman, l'empereur ottoman. Donc, il s'agit essentiellement d'un 16e-iste, mais qui, vers la fin de sa vie, s'est lancé dans cette autre aventure qui était d'écrire un peu sur le XVIIe siècle, en prenant donc six cas, et voilà les six cas, la guerre civile anglaise, la Fronde, la révolte en Catalogne, et aussi en quatrième lieu des Portugais, ce qu'on appelle donc, dans l'historiographie portugaise la restauration, restauration plutôt que révolte. Donc le cas de Napolitain et finalement la question des Pays-Bas, et d'ailleurs qui avait débuté déjà au XVIe siècle, mais il prend la situation au XVIIe siècle quand il s'agit plutôt des problèmes autour de la stabilité de la Maison d'Orange. Donc il a pris ces six cas, mais il a fait un développement assez particulier, parce qu'il nous dit qu'en effet, il n'y a pas de rapport entre ces six révolutions, c'est-à-dire ils ne sont pas des révolutions, pour ainsi dire, connectées, sauf peut-être Portugal et Catalogne, parce que, bien sûr, les deux se mettaient en révolte contre les Castillans, donc, bien sûr, il y avait un peu de va-et-vient entre les deux, mais pour les autres, pour lui, il n'y a pas de rapport. Et deuxièmement, il nous dit aussi que l'intérêt particulier, c'est de juste mettre ces exemples côte à côte pour arriver à une espèce de typologie ou de caractérisation d'un éventail de révolutions possibles. Entre 1938 et 1954, il n'y a pas eu de retour sur cette question, mais là, en 1954, vous voyez l'article qui, en quelque sorte, a relancé la question. Et c'est un article, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de traduction française, mais il se peut que je me trompe, c'est l'article célèbre d'Eric Hobsbawm, qui s'appelle « The General Crisis of the European Economy in the 17th Century », publié dans la revue anglaise de prestige à l'époque, qui était une revue encore nouvelle, qui est Past and Present, la revue d'Oxford, la revue donc, qui a été montée par les historiens marxistes anglais contre l'establishment et qui a donc voulu proposer toute une série de nouveaux exercices, dont cet article de Hobsbawm. Alors, ce que nous dit Hobsbawm dans cet article, c'est que, en gros, qu'il n'est pas vraiment spécialiste du XVIIe siècle. Il est plutôt spécialiste de l'époque plus récente, mais qu'il a donc la possibilité, à partir de cette distance et à partir de la capacité de maîtriser toute une série de matériaux assez dispersés, car, comme vous le savez peut-être, Hobsbawm était quand même très très fort en langues européennes. Il avait donc une maîtrise à la fois de la littérature en français, espagnol, allemand, hongrois, russe, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui maîtrisait tout un éventail de choses. Mais ce qu'il fait essentiellement, c'est de revenir sur une question d'ailleurs assez ancienne. C'est-à-dire, c'est le problème classique marxiste de la transition du féodalisme au capitalisme. Et donc, il s'agit de savoir comment faire une chronologie de cette transition. Et enfin, Hobsbawm nous explique, c'est un article qui est en deux parties, que pour lui, le grand problème du XVIIe siècle, c'est le problème suivant. Il dit, au début du XVIIe siècle, l'Angleterre, à l'échelle mondiale, était un pouvoir assez petit et médiocre. Mais si on regarde la situation en 1700, l'Angleterre devient quelque chose un pouvoir extrêmement, une puissance extrêmement importante à l'échelle certainement européenne, mais aussi mondiale. Alors, il faut savoir comment cette transformation s'est produite. Et donc, la façon dont on va faire l'exercice pour Hobsbawm, c'est de démontrer comment, face à une conjoncture générale au XVIIe siècle, les Anglais ont su se transformer quand les autres pays en Europe n'ont pas pu faire la même chose. Alors, donc, c'est une tentative de faire une relecture de quelque chose, comme vous le savez, qui est un problème très, très ancien dans l'historiographie anglaise, c'est comment caractériser la guerre civile anglaise. En effet, le problème de savoir si dans cette transition et dans ce mouvement très difficile de deux, trois décades, décennies au milieu du XVIIe siècle, il y a une véritable transformation qui s'est produite ou non, ou est-ce que, le retour des Stuarts a impliqué en quelque sorte une espèce d'interruption, mais une continuité avec ce qui existait dans la première moitié du siècle. Et alors, il arrive finalement à la conclusion que ce que les Anglais ont su faire au XVIIe siècle, c'est de créer un contexte dans lequel la bourgeoisie a pu, en quelque sorte, saisir le pouvoir. Et c'est un thème donc qui reste au centre de tout un débat marxiste sur lequel je vais revenir brièvement. Par exemple, l'ouvrage de mon collègue de Los Angeles, Robert Brenner, qui s'appelle donc Merchants and Revolution, c'est à peu près autour de cette question-là, c'est-à-dire comment, en effet, les marchands et les marchands capitalistes en Angleterre, en quelque sorte, ont pris le pouvoir au courant du XVIIe siècle et que c'est une transformation qu'en fin de compte ne s'est pas pu produire ailleurs en Europe. Cet article est resté 4 ou 5 ans sans réponse. Mais alors, à la fin des années 50, donc on a ce deuxième moment, toujours dans la même revue, quand un historien qui est considéré comme beaucoup plus conservateur, qui n'était d'ailleurs pas du tout un historien marxiste, a repris la question. Et ça, c'est Hugh Trevor Roper. Alors, Hugh Trevor Roper, pour vous rappeler un peu les grandes lignes de sa carrière et son développement intellectuel, a commencé sa carrière en écrivant une biographie de William Laud, l'archevêque de Canterbury, au XVIIe siècle. William Laud, qui était considéré comme, en quelque sorte, celui qui a donné beaucoup de mauvais conseils à Charles Ier. Mais William Laud, qui est aussi très connu parce qu'il a créé une des collections les plus importantes de manuscrits dans la bibliothèque de Bodleian. Mais Laud, qui a été tué pendant la guerre civile, pour Trevor Roper, était plutôt un homme d'esprit médiocre, sans beaucoup d'ouverture. Alors, par la suite, M. Trevor Roper a ouvert une petite parenthèse, d'ailleurs une parenthèse assez importante à certains points de vue dans sa vie, parce qu'il était dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était parmi les premiers qui sont rentrés à Berlin en mai 1945, et donc il s'est intéressé beaucoup à Hitler. Et il a écrit donc toute une série d'ouvrages sur Hitler, donc c'est un autre aspect complètement différent de sa carrière, qui s'est soldé par un échec, parce que c'est lui, à la fin de sa carrière, qui a en quelque sorte donné son imprimature sur ces journaux faussés de Hitler, qui ont été vendus à la revue Spiegel. Mais donc, c'est quelqu'un qui avait ces deux aspects de sa carrière, historien de l'Allemagne au XXe siècle, mais surtout un historien donc, du XVIIe siècle. Alors, donc, sa version de la crise générale du XVIIe siècle, c'est une version complètement différente par rapport à la version de Hobsbawm. Il ne s'intéresse absolument pas à la question de la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Pour lui, en fait, l'essentiel de la crise du XVIIe siècle, partout en Europe, c'est le problème des États centralisateurs contre surtout les paysans qui sont soumis aux ambitions de ces États centralisateurs. Donc, pour lui, ce qui arrive au XVIIe siècle, c'est qu'il y a une espèce de mouvement généralisé dans la France de Richelieu, de Mazarin et de Colbert, dans l'Espagne du duc de Lerma et le comte-duc d'Olivares, dans l'Angleterre de Charles Ier, déjà avec Jacques Ier, selon lui, ça avait commencé. Et donc, pour lui, c'est un État qui devient de plus en plus ambitieux. C'est lié, peut-être, même si c'est un aspect qui n'a pas été défini, avec une autre hypothèse qui avait été lancée plus ou moins au même moment par l'historien irlandais Michael Roberts sur ce qu'il appelait la révolution militaire, c'est-à-dire l'idée que ces États devenaient plus importants et plus centralisateurs parce qu'il fallait dépenser beaucoup plus pour, au niveau de la construction des châteaux et des forteresses, etc. Mais en tout cas, pour lui, ça se jouait autour de ça et les résultats étaient assez différents dans des cas différents. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, les paysans, mais aussi les gens, disons, moyens, dans le cas anglais, on utilise, comme vous le savez, souvent le mot « gentry », ont su résister à ces mouvements centralisateurs, tandis que dans d'autres cas, c'est l'État centralisateur qui a gagné. Et donc, voilà l'intérêt de regarder cette crise, un certain nombre de cas où c'est l'État qui fait des avances, tandis que dans d'autres cas, il y a une espèce de résistance. Est-ce que c'est une interprétation conservatrice, reste à savoir, mais en tout cas, c'était le début d'un grand débat, parce que à la suite de son article, Past and Present a demandé à une demi-douzaine d'historiens de répondre. Donc il y a eu un débat dans les pages de Past and Present, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart, il y avait un mélange assez curieux entre gauche et droite, plus ou moins, entre des historiens qui étaient ouvertement marxistes, Hobsbawm, par exemple, a répondu, mais d'autres qui étaient assez différents dans leur façon d'aborder les choses. Et en fait, le seul Français qui a participé dans ce débat, et je vais revenir sur lui, c'est Roland Mounier. Alors, cette idée de crise, ou de crise générale du XVIIe siècle, à l'échelle européenne, mais à l'échelle européenne, on n'est pas parti à l'échelle extra-européenne en ce moment. Donc, à l'échelle européenne, a donné donc une suite. C'est devenu, dans les années 60, plus ou moins une phrase acceptée dans l'historiographie anglophone. Je pense que ça a eu moins de percée dans l'historiographie en dehors du monde anglophone, même si dans l'historiographie allemande, on trouve des traces, et un peu dans l'historiographie scandinave. Il faut dire que, et je vais revenir encore sur cette question, que des historiens danois et hollandais sont restés assez sceptiques. Mais en tout cas, dans le monde anglophone, on a eu, par exemple, des livres comme « Europe in Crisis », qui parle exactement autour de cette question. On a cet autre livre qui reste toujours une référence de base qu'on utilisait un peu partout dans le monde anglophone comme livre pour organiser les cours, qui est « The General Crisis of the 17th Century ». L'auteur du premier livre et le co-directeur du deuxième livre, c'est quelqu'un qui sur lequel je vais certainement revenir, c'est Jeffrey Parker, historien essentiellement militaire, mais qui s'est intéressé et qui a fait de la crise générale un peu son cheval de bataille pour un certain nombre de débats. Alors, dans ces deux livres, on fait le lien entre crise générale et problèmes militaires d'une façon beaucoup plus explicite que ce n'était le cas avec Trevor Roper. Et par exemple, un des développements de Jeffrey Parker, c'est de lier la crise générale avec la guerre de 30 ans. Donc, il fait explicitement ce mouvement pour lier toute l'historiographie sur, à la fois sur les dégâts produits par la guerre de 30 ans, les réorientations, les équilibres, le problème, bien sûr, de la distribution de cartes à Westphalie, etc. Donc, il fait ce lien beaucoup plus explicitement. Lui aussi, il commence à faire ce développement où il met l'accent sur crise générale et révolution militaire, hein, comme un couple. Alors, le livre qui reste pour moi un peu un puzzle, parce que c'est un livre qui est à la fois très intéressant, mais qui n'a pas eu beaucoup de retentissement, surtout en dehors du contexte français, c'est le troisième livre, le livre de Roland Meunier. Alors, déjà dans sa contribution au débat Trevor Roper, à la fin des années 50, Roland Meunier, comme vous le savez, professeur à la Sorbonne, avait soutenu l'idée que lui-même avait développé cette idée, disons, avant Hobsbawm et avant Trevor Roper, en se basant essentiellement sur le cas français, mais aussi sur le cas espagnol, et en ayant en arrière-plan le cas britannique. Alors, ce livre-là, Führer paysanne, est un livre qui est beaucoup plus ambitieux que les deux autres à l'échelle géographique. Parce que Meunier sort carrément du cadre européen et il fait donc cette comparaison entre France, Russie et Chine au XVIIe siècle. Et alors, je reviens un peu sur ce qu'il dit au début de son livre. Alors, il nous dit qu'en gros, en Europe d'abord, où l'apogée de ces crises se place entre 1640 et 1660, donc on a la Révolution d'Angleterre, dont le point culminant se place entre 1648 et 1653, et qui est peut-être la première grande révolution bourgeoise des temps modernes. Cet essai de réaction contre les nouveautés monarchiques qui fut la Fronde en France de 1648 à 1652, la révolte de Catalogne contre l'Espagne, 1640-1652, celle du Portugal, 1640-1668. En 1647, la révolte napolitaine de Massaniello, qui fut tuée le 16 juillet, mais dont les partisans luttèrent jusqu'en février 1648 contre les troupes espagnoles du vice-roi Arcos et de la flotte de Don Juan d'Autriche. La tentative de coup d'État de Guillaume II en Hollande en 1650, l'insurrection d'Ukraine de 1648 à 1654. Alors, là, déjà, on a un exemple de plus qu'on n'avait pas saisi tellement dans les autres analyses. Ce sont les épisodes les plus saillants, mais partout en Europe, il y a eu des troubles dans les villes et dans les campagnes, en Irlande en 1641, en Suisse, en Allemagne, en Russie, émeutes populaires de 1648 en Moscou, Oustouga, Koslov, Tomsk et autres villes. En 1649, soulèvement d'endettés à Moscou. En 1650, émeute, etc., etc. Mais donc, il poursuit qu'il peut faire, nous dresser toute une liste dans le cas français. Et alors, là. Mais l'Europe n'est pas seule en cause. En Chine, depuis 1620, les rébellions s'étendent et s'accroissent jusqu'à la chute de la dynastie Ming en 1644. Elles reprennent sur une vaste échelle avec le grand soulèvement du général Wu Sankui, commencé en 1673 et qui dura jusqu'après sa mort, jusqu'en 1681. Les révoltes chinoises sont à peu près contemporaines des grands mouvements européens. Et donc, il poursuit sur la possibilité de parler d'un soulèvement, même au Japon, dans les années 1630, la rébellion donc des chrétiens. Mais il ramasse même, par exemple, la rébellion des Sikhs contre les Mogols à la fin du XVIIe siècle, et il nous parle donc de la possibilité de rentrer dans des questions américaines, hein, par exemple, quelques soulèvements même dans le Mexique. Alors, un aspect intéressant du texte de Meunier, à part cette question de l'ouverture, donc vous voyez que là, on est déjà en mouvement vers une histoire non pas globale mais mondiale, c'est-à-dire où on met côte à côte des cas assez éloignés dans l'espace pour faire la comparaison, pas pour faire des connexions, bien sûr. Mais un des aspects intéressants que je trouve chez Meunier, c'est qu'il nous signale l'existence des penseurs au XVIIe siècle qui avaient eux-mêmes vu et réfléchi un peu sur cette question de l'échelle mondiale de ces mouvements. Et donc, il y a un cas qu'il mentionne, et je vais faire quelques remarques sur ce cas précis, comme c'est pas, il n'y a pas de développement que je peux trouver dans l'historiographie actuelle sur cet auteur. Alors, il s'agit donc d'un texte qui est paru en 1649 à Paris, Histoire des troubles. Là, vous voyez, ce n'est pas la révolution qui est en question, mais troubles. Donc, Histoire des troubles de la Grande-Bretagne, et écrit par quelqu'un, un personnage un peu obscur, mais heureusement, il y a un petit article qui est consacré à cet auteur dans les annales de 1953 par Marc-André Béra. Alors, il s'agit de quelqu'un que dont l'historiographie française porte le nom de Montée de Salmonet. Bon. Mais en réalité, en creusant un peu, on se rend compte que c'est un Écossais qui s'appelle Robert Monteith. Robert Monteith, un Écossais qui a eu des problèmes en Écosse, qui s'est converti au catholicisme et qui est arrivé donc par la suite en France, où il s'est mis au service de M. Gondi, le cardinal de Retz. Et c'est donc dans l'entourage du cardinal de Retz qu'il va finalement rédiger ce texte. C'est un texte qui est fort intéressant. Il a continué à développer ça au fur et à mesure avec l'exécution de Charles Ier, le Commonwealth et tout cela. Mais si vous regardez le texte de Monteith, voilà comment... Je vous livre quelques passages, juste pour avoir une petite idée de sa façon de voir les choses. Il dit que ce qu'il est en train d'écrire, c'est l'histoire de la plus étrange révolution que soit jamais arrivée dans le monde. Et c'est-à-dire la tempête qui a agité la Grande-Bretagne. Alors, bien sûr, il nous dit que les rébellions existent depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas le fait même de la rébellion qui est en question. Alors, il dit d'ailleurs, la désobéissance du premier homme a mis le désordre et la mort dans le monde. Donc, ça commence avec Adam. Et ça a été comme une puante vapeur qui est sortie du fond de l'abîme, a terni la beauté de tout l'univers et a gâté cette douce harmonie et cet agréable concert qui était entre ces parties. Alors, donc, voilà le début des problèmes de rébellion, mais ce qui est intéressant, c'est ces réflexions sur le XVIIe siècle. Et je vais juste m'arrêter quelques instants sur ces passages-là. Il dit « Je ne veux rien prononcer sur les mœurs du siècle où nous sommes. Je peux bien assurer seulement qu'il n'est pas des meilleurs, étant un siècle de fer, qui est un mauvais réformateur de la vie des hommes, la guerre apportant d'ordinaire un débordement de vice avec la désolation des provinces. Toujours est-il fameux pour les grandes et étranges révolutions qui sont arrivées. On y a vu des personnes monter sur des trônes possédés par des grands et des puissants rois sans donner un coup d'épée et en prendre possession avec autant de facilité comme si ce n'était qu'un petit héritage. On a vu des princes humiliés et quelques-uns même dans la dernière des humiliations que l'Écriture sainte appelle la rupture de la ceinture des rois. » Alors là, bien sûr, il pense en particulier à l'Angleterre. Mais il continue. « Les révoltes y ont été fréquentes tant dans l'Orient que dans l'Occident. Et cette nation que méprise d'avoir commerce avec le reste des hommes a vu le grand mur que la sépare de ses barbares voisins rompus et ses provinces désolées que les premières influences du soleil levant rendent merveilleusement fécondes. » Alors, il dit, bien sûr, mais entre toutes les révolutions qui sont arrivées en ce siècle, celle de la Grande-Bretagne est la plus considérable, la plus étrange et la plus funeste dans toutes ces circonstances. Bien sûr, le problème étant que, bon, on peut tuer des rois, et d'ailleurs on tue des rois sur les champs de bataille, même en Angleterre. Le dernier roi qui a été tué avant Charles Ier étant Richard III, à la fin du XVe siècle, mais c'est ce qui est difficile pour lui, c'est le fait que ça a été fait d'une façon aussi systématique, avec recours à une idée de procès contre un roi, etc., etc. Et avec une humiliation publique qui était d'un tout autre ordre que être tué dans la bataille de Bosworthfield. Alors, donc, vous voyez, et c'est une petite partie du développement de Mounier, cet aspect, donc, de jouer un peu avec les témoins, donc, si vous voulez, dans des termes un peu plus anthropologiques, entre aspects émiques et éthiques. Donc, ça veut dire que là, on est dans une situation où ce n'est pas seulement les historiens du XXe siècle, voyant de loin, qui arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a même des gens au XVIIe siècle qui voient ça. Donc, il joue un peu avec cette question-là. Mais ni lui, ni finalement Robert Monteith ont fait un lien ou ont essayé de développer, disons, une explication systématique pour nous dire pourquoi ça aurait été le cas partout dans le monde. D'ailleurs, on peut comprendre à l'échelle de l'Europe, car il y avait circulation entre les cours. On peut très bien imaginer, d'ailleurs, ça a été démontré, que Olivares suivait ce que faisait Richelieu et vice-versa. Donc, on peut très bien imaginer que la politique des rois et des válidos pouvait s'influencer. Mais alors, pourquoi la Chine à ce moment-là? Pourquoi est-ce que, par exemple, encore dans le cas de la Russie, on peut faire un lien direct entre ces mouvements? Donc, question qui reste ouverte dans ces écrits. Et d'ailleurs, il faut dire que si on commence à regarder, et si on veut être plus ambitieux encore que Mounier n'a été dans son texte, c'est vrai qu'on peut commencer à accumuler beaucoup plus d'exemples de ces crises, disons, du XVIIe siècle. Il y a, par exemple, une historiographie, tout un développement sur la crise de l'Empire ottoman au XVIIe siècle. Par exemple, il y a un texte relativement récent écrit par l'historien turc Cemal Kafadar, qui commence de la façon suivante. Il dit... Si le XVIIe siècle représente une ère de crise généralisée pour diverses parties du monde, il semble bien que cette période de trouble ait commencé dans l'Empire ottoman deux décennies plus tôt, vers 1580. Donc, il essaie de raccorder les choses un peu. Lorsque, et là, il revient à une chose intéressante, par une coïncidence malheureuse, le calendrier islamique approchait de son millénaire. Alors, je vous rappelle donc que le XVIe siècle, c'est le XVIe siècle de l'ère chrétienne, mais c'est le Xe siècle de l'ère musulmane. Donc, et l'an 1000 pour les musulmans, c'est 1591-1592. Et donc, il y a là une coïncidence, peut-être, mais aussi peut-être quelque chose qui a eu une influence sur la mentalité des gens à l'époque. Il continue, pour diverses raisons qui ne sont pas toutes d'ordre chronologique, la capitale ottomane fut saisie de la crainte d'une apocalypse au cours de la dernière décennie du Xe siècle de l'Égypte. Et là, il nous parle donc d'une série d'écrivains et d'auteurs qui avaient donc un sentiment de crise et qui écrivaient donc ces textes qu'on appelait souvent les textes de Nasihat ou de réforme, parmi lesquels le plus célèbre, c'est l'auteur Mustafa Ali, de Gelibolu Mustafa Ali, qui a écrit des chroniques, mais qui a aussi écrit des textes de réforme en nous expliquant comment l'Empire ottoman était en déséquilibre. Donc, pour lui, un bon système politique avait besoin d'être équilibré sur ses piliers, et là, il trouvait qu'il y avait un aspect de déséquilibre. Et c'est intéressant parce que Ali, étant un grand intellectuel, a aussi puisé dans des textes plus anciens. Par exemple, ça a été démontré qu'Ali était un lecteur d'Ibn Khaldun, et donc c'est à partir de certaines des idées cycliques d'Ibn Khaldun qu'Ali développe cette idée d'une crise qui est en train de se produire dans l'Empire ottoman du XVIe siècle. D'ailleurs, cette idée de crise d'Empire ottoman a été même reprise ailleurs. Les Portugais, au XVIIe siècle, ont produit quelques textes d'ailleurs des textes assez curieux. Ça, c'est l'exemple d'un de ces textes illustrés écrit par quelqu'un qui s'appelle Félix da Costa, qui appartenait à ces milieux de ce qu'on appelle les sébastianistes. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle Sébastica au Portugal à l'époque, ces gens qui attendaient le retour du roi Sébastien. Mais lui, il avait un développement très particulier en utilisant les apocryphes du prophète Ezra et le rêve, dans lequel il y a une histoire d'un oiseau qui commence à développer plusieurs têtes et ces têtes vont donc rentrer dans une lutte les unes contre les autres. Pour lui, en fait, vous ne pouvez pas le voir peut-être, mais chaque tête, ça représente un des sultans ottomans. Et il nous fait toute une démonstration basée sur les traductions des sources ottomanes. Donc, ce n'est pas du tout un texte entièrement fantaisiste. C'est basé sur les traductions en latin des textes ottomans. Et finalement, bien sûr, son développement à lui, c'est que quand les Ottomans se seraient plus ou moins entretués, là va sortir de la forêt, le lion qui est, si vous regardez, qui a écrit sur sa tête « au encuberto ». Donc c'est le roi Sébastien qui va revenir pour mettre fin à l'Empire ottoman. Donc il y a cette notion de déclin chez les Ottomans qui est par la suite repris même par les Occidentaux, même par les gens en Ibérie au XVIIe siècle. Donc, il y a cet aspect-là de crise, de textes de réforme, de sentiments de crise, et on peut commencer à multiplier les exemples. Roland Monnier, si vous regardez le chapitre qu'il a consacré à la Chine dans son livre, c'est basé presque exclusivement sur les écrits d'un auteur, qui est un Américain qui s'appelle James Parsons, qui avait écrit quelques articles dans les années 50 sur les bandits à la fin de l'Empire Ming. Mais en réalité, il y a maintenant une littérature tout à fait énorme sur ce problème de ce qu'on appelle le déclin des Ming. Par exemple, il y a ce livre assez charmant écrit par Ray Huang qui s'appelle 1587, une année sans importance. A Year of No Significance, dans lequel il développe l'idée que déjà à la fin des années 1580, le déclin des Ming avait commencé, c'est-à-dire fini l'époque de l'expansion en océan Indien, fini l'époque de l'expansion en Asie centrale, et les Ming se trouvent vraiment sclérosés déjà, mais ça va durer à peu près 60 ou 70 ans jusqu'à dans les années 1640 pour que le déclin s'achève. À partir de ce genre de réflexion, bien sûr, il y a certains auteurs, surtout dans les années 80, qui ont essayé de faire le lien encore. Et c'est toujours un peu dans l'esprit de Mounier entre ces différentes littératures de déclin. Je vous donne un exemple. Le sinologue William Atwell, qui a publié cet article assez intéressant, qui s'appelle « Ming Observers of Ming Decline », c'est-à-dire les récits Ming sur le déclin Ming, un peu comme John Eliot avait fait dans Past and Present, un texte qui s'appelle The Decline of Spain, mais portant exactement sur le même type d'idée. Mais l'avantage là, et vous voyez ça déjà sur la première page, vous voyez que Atwell cite un texte ottoman, un texte espagnol, un texte français, et donc par la suite il va faire tout un développement sur le rapport entre toutes ces littératures de déclin, en nous disant en gros que, disons morphologiquement, il y a une espèce de ressemblance de famille entre ces littératures de déclin. Mais on est toujours dans un comparatisme à l'échelle mondiale, pas dans une espèce d'histoire globale, disons. Alors, le même genre d'exercice se trouve un peu dans le grand livre que Eliot a consacré, son étude biographique de Conduque d'Olivares. Vous voyez le sous-titre, c'est déjà « The Statesman in an Age of Decline ». Donc, où il poursuit cette réflexion sur le déclin de l'Espagne, lié bien sûr à toute la question du déclin des empires ibériques à l'échelle mondiale, et lié bien sûr aussi à l'utilisation de tous ces textes qu'on appelle les textes d'arbitrio, écrit par des gens qui s'appellent, qui sont appelés les arbitristas, qui ont envie de proposer des projets de réforme. Vous avez un exemple ici en espagnol. Et à droite, peut-être un peu moins clair, mais c'est la meilleure image que j'ai pu trouver, c'est le célèbre texte de Diogo do Couto, Dialogo do Soldado Pratico, dans lequel il propose une réforme de l'Asie portugaise au début du XVIIe siècle, toujours dans un esprit de déclin. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement. On commence avec l'Europe, surtout l'Europe occidentale. On commence, dans un deuxième moment, de faire ces espèces de comparaisons en sortant du cadre européen, en allant tout d'abord vers l'Ukraine et la Russie, finalement pour arriver à la fois dans l'empire des Qing et Ming et de l'autre côté dans l'empire ottoman. Il y a tout un autre développement possible sur lequel je ne vais pas trop m'arrêter aujourd'hui. Je vais mentionner ça très, très rapidement. Ça, c'est un développement plutôt économique, hein, autour du problème du commerce mondial au XVIIe siècle, où il y a deux positions différentes. Il y a une position qui nous dit que le XVIe siècle était un siècle d'expansion globale pour le commerce, et que ça s'est arrêté autour de 1620, en fait, entre 1619 et 1622. C'est la thèse qui a été soutenue, entre autres, par Pierre Chenu, en se basant sur les statistiques portant sur le commerce atlantique. Mais le contre-pied, en quelque sorte, de cette thèse a été proposé par un historien danois, Niels Stinsgaard, qui d'ailleurs avait aussi contribué à ce livre collectif sur la crise générale du XVIIe siècle, mais là, Stinsgaard avait proposé l'idée selon laquelle, autour de 1620, il y avait une crise structurelle dans le commerce à long cours, et il y a eu donc une révolution commerciale asiatique, c'est-à-dire, pour lui, le commerce ibérique était en quelque sorte sclérosé et il a fallu l'arrivée des gens du Nord et surtout des Néerlandais et les Anglais pour libérer ce commerce. Et donc, il prend un peu le contre-pied de cette idée qu'il y a eu un ralentissement autour de 1620. Pour lui, c'est plutôt un moment où quelque chose va démarrer et en fait, il y a plutôt un effet contraire. Et là, il reprend, par une voie assez compliquée, des thèses de Max Weber sur l'incapacité des pouvoirs catholiques à moderniser leur commerce, tandis que c'est les Néerlandais et les Anglais, plutôt des pouvoirs donc, protestants, qui donnent cette possibilité d'une expansion. Mais là, on est en train de jouer sur une autre échelle. Je vais sûrement revenir sur ça dans les cours à suivre, mais je vous signale ça juste en passant. Je vous signale également qu'il a pris une voie très compliquée pour démontrer ça. Son livre qu'il a publié en 1973, dont la structure est essentiellement calquée sur la structure de la Méditerranée de Fernand Braudel. Donc, il y a un premier développement qui est une espèce de discussion institutionnelle. Et il y a un deuxième moment qui se compare un peu avec le deuxième volume de la Méditerranée où il y a tout le problème des négociations diplomatiques à la suite de Lépante. Et lui, il parle essentiellement sur le problème de Hormuz, cette petite île dans le golfe Persique, et le problème donc, de la chute de Hormuz en 1622 pour développer cette idée d'une crise et une résolution en 1622 avec le triomphe des gens du Nord. Et d'ailleurs, là encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parce qu'il y a une littérature énorme de l'époque, en portugais, en néerlandais, en anglais, des gens qui ont parlé de l'importance, de la signification de ce moment. Et il y a d'ailleurs, dans les années 80 toujours, et dans les débuts des années 90, un développement à l'échelle toujours mondiale de plus en plus de ces études portant sur les crises du XVIIe siècle, crise de révolution, les modèles possibles. Là, vous voyez l'ouvrage d'un sociologue, Jack Goldstone, qui a essayé dans ses deux livres, un livre qui est un livre d'histoire comparée, sur les rébellions en Occident, dans l'Empire ottoman, en Chine. Le deuxième, qui est un exercice qui est beaucoup plus compliqué, d'histoire contrefactuelle, où il essaie de démontrer que si en 1690, Guillaume III avait été tué dans la bataille de la Boyne, alors l'histoire occidentale aurait pris une tournure complètement différente parce que Jacques II serait revenu en Angleterre, Newton aurait été chassé, on aurait fermé la société royale, et James Watt n'aurait pas pu faire ses découvertes, on n'aurait pas eu la révolution industrielle. Donc vous voyez que c'est une expression un peu extrême des thèses weberiennes sur la lutte entre les catholiques et les protestants. Mais, alors là, finalement, on vient à ce qui, pour moi, est une tentative extrêmement importante, et c'est, en quelque sorte, la première tentative de dépasser ces schémas d'histoire mondiale et comparative pour aller au-delà de ça. Et on aura l'occasion de reparler de ce livre au moins une fois dans l'année à venir. C'est un livre qui vient tout juste de sortir, ça fait quelques mois, qui est écrit donc par quelqu'un qu'on a déjà vu dans la bibliographie quelquefois, c'est Geoffrey Parker, historien anglais, historien militaire, et qui vient de sortir donc ce livre qui s'appelle Global Crisis, sur guerre, changement de climat et catastrophe au XVIIe siècle. Vous ne pouvez pas peut-être voir les détails de contenu, mais il commence donc avec une considération de la crise générale, et il va donc, chapitre après chapitre, passer en revue la Chine, la Russie, Pologne, les Ottomans, l'Allemagne, l'Empire ibérique, France, Grande-Bretagne, les Moghols, Italie, Amérique, Afrique, le Japon de Tokugawa. Donc, vous voyez qu'il a vraiment une espèce de tentative de couverture globale. Mais la question se pose, comment mettre tout cela dans le même cadre? Est-ce qu'on peut arriver vraiment à faire une histoire globale de tout cela, ou est-ce qu'on est finalement voué à des comparaisons? Et alors, voilà sa solution. Lui, je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais je vous livre, dans le temps qui me reste, les éléments principaux. Donc, vous voyez que pour lui, au XVIIe siècle, il y a une crise globale et on peut multiplier les incidents de révolte et de rébellion un peu partout, vous voyez, sur les quatre continents. Mais pour expliquer tout ça, il revient à quelque chose d'assez assez simple. Il nous dit qu'il y a eu plus de révoltes et de ce qu'il appelle simultaneous state breakdown au XVIIe siècle que dans les autres siècles. Il nous donne donc cette comparaison. On peut bien sûr débattre les chiffres, mais selon lui, si on compare les conflits, ce qu'il appelle les long wars, et il y a eu beaucoup plus au XVIIe siècle que dans les siècles précédents ou les siècles qui ont succédé. Donc pourquoi ce surcroît de conflits? Il nous fait la liste et il nous fait donc un développement qui est assez intéressant pour nous dire qu'en effet, tout cela, c'est dû à des problèmes de climat. Des problèmes de climat qui sont liés avec ce que autrefois Emmanuel de Roy-Ladurie avait lui aussi développé, ce problème de ce qu'on appelle le Little Ice Age, ce moment de refroidissement au XVIIe siècle, sur lequel il nous propose plusieurs hypothèses. Donc, si vous regardez ici, vous avez ce qu'il appelle le problème de monde minimum, qui est un problème lié avec la présence et l'absence des taches solaires. Et il nous dit qu'en effet, au XVIIe siècle, il y avait une absence relative, surtout dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, de taches solaires. C'est un phénomène magnétique qui, bien sûr, même aujourd'hui, dans le contexte de réchauffement, on parle d'un va-et-vient entre la présence des taches solaires et, bien sûr, la question des gaz sur et la production donc, par les êtres humains, tandis que là, il nous invoque ça beaucoup plus comme une espèce de deus ex machina, quelque chose qui vient de l'extérieur, et il rajoute à ça un autre phénomène qui, bien sûr, n'est pas du tout lié, c'est-à-dire il nous dit qu'au XVIIe siècle, il y avait de l'activité volcanique qui était extraordinaire, et que si on combine ces deux, et il parle aussi un peu d'un troisième élément, mais ça c'est assez peu convaincant, c'est-à-dire il essaie aussi de faire le lien entre ces deux phénomènes et les phénomènes d'El Niño dans le Pacifique, pour nous dire qu'en gros, on peut développer une espèce de vision globale et une thèse globale autour de toutes ces révolutions et toutes ces révoltes en utilisant cette explication donc, climatique. Ça fait quelques mois que le livre a été publié et on n'a pas encore eu un vrai débat autour de ce livre. Déjà, dans les quelques comptes rendus qu'on peut voir dans les journaux, il y a des voix assez sceptiques. Parce que, comme vous le savez, tout d'abord, les révolutions et les révoltes ont été distribuées d'une façon assez inégale dans le monde. Deuxièmement, les conséquences n'ont pas été les mêmes. Et troisièmement, comme on le sait, le changement climatique n'a pas le même effet partout dans le monde, mais s'il y a une différence de quelques degrés en France, ça peut avoir un effet beaucoup plus important que la même différence, par exemple, dans la vallée de Gange en Inde du Nord. Donc, il y a tout ce problème qui se pose. Mais en tout cas, ce que je retiens pour l'instant dans ce livre, c'est l'ambition de l'auteur, d'avoir une couverture globale, d'essayer de maîtriser en fait une bonne dizaine de littératures extrêmement différentes, d'essayer donc de faire une synthèse autour de ces littératures pour arriver donc finalement à cette hypothèse qu'on peut contester, mais qui néanmoins pour moi a l'avantage d'aller au-delà de soit d'une histoire européenne comme on avait vu au début, soit d'une histoire comparée comme on a vu dans un deuxième moment. Mais la dernière réflexion que je vais vous livrer, c'est sur Mounier. Parce que si vous regardez le livre de Mounier, c'est intéressant de voir qu'à la fin de son livre, il nous dit que pour comprendre ce qui s'est passé, même dans ces trois cas, il faut regarder l'action néfaste des grandes calamités atmosphériques, avec leurs conséquences, mauvaises récoltes, cherté, 17 épidémies, comme disaient alors les Français, les mortalités que désorganisait l'économie. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, on est ici dans un cas d'une histoire qui se pratique des deux côtés de Manche, où il y a des malentendus ou des absences de conversation assez curieuses, car on aurait pu arriver à ça en suivant les conseils de Mounier déjà dans les années 70, tandis qu'on a attendu parce que Mounier n'a ni été traduit, ni été lu dans cette version au moins dans le monde anglophone. Merci.